Une dynamique positive est toujours plus valorisante qu'une dynamique négative. Ce qu'on dit dans les quartiers, c'est qu'il y a aussi un manque de confiance, etc.
Salima Assa, présidente de l'ACCÉ.
Donc moi, je veux qu'on ait un discours enthousiaste, positif, sans nier la réalité. On sait que c'est difficile, il y a des difficultés. Et nous sommes là pour accompagner et armer pour lutter contre ces difficultés et faire en sorte qu'on avance. Moi, je pense qu'il faut en effet avoir un discours optimiste. Je sais, les choses ne sont pas aussi simples, mais à force de dire qu'il n'y a rien qui va et que de toute manière, il n'y a rien qui va bouger, ça ne donne pas envie de faire des choses. Je pense que le petit déclic dynamique, pour certains, peut vraiment les aider à passer à quelque chose de très positif. Quelqu'un qui crée son entreprise va être enthousiaste, avoir des idées. Nous, on va l'accompagner, mais il va aussi générer ce que j'appelle l'effet induit positif à son entourage, à sa famille, à ses enfants, à ses amis. Talent des cités, c'est exactement ça que nous voulons promouvoir, c'est-à-dire des bonnes idées, et nous on les accompagne sur l'aspect financier, sur l'aspect managérial, pour pouvoir développer leur propre entreprise, leur propre emploi, et créer de l'emploi, créer de la valeur. J'ai remis le prix au projet Île-de-France, mais récemment ils se sont tous regroupés, tous ces jeunes que j'ai vus, qui avaient tous des projets, reçu un prix, donc et forcément de l'argent, on avait pu aider pour mettre en place leur projet. Moi je trouvais ça, si vous voulez, quand je vois ça, je suis contente, je me dis, bon voilà, on a fait quelque chose de bien, et il faut continuer.
Peggy Capré est l'heureuse lauréate de la 10e édition du concours Talents des Cités pour la région Île-de-France. Psychologue de formation, elle vient de monter un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des expatriés et des migrants rencontrant des difficultés psychologiques.
Je pense à un monsieur malien qui me disait, dans le cadre d'une discussion, moi j'ai vraiment des problèmes à mon travail, avec mon responsable. Et il me dit, pourtant je le respecte, mon responsable, je le respecte, je le regarde pas dans les yeux. Et c'est vrai que je lui ai dit, ah mais ici, en France, c'est vrai que vaut mieux regarder les gens dans les yeux. Donc là, il m'a regardé lui avec des yeux grands ouverts, il me dit, mais vous, je vous regarde pas dans les yeux, et ça vous dérange pas? Je dis, mais moi, je le sais, que peut-être en Afrique, on regarde moins souvent dans les yeux. Et donc là, il a ouvert les yeux grands, justement, en comprenant ça ou en entendant ça, on va dire. Et je lui dis, ben oui, peut-être que votre responsable, lui, de voir que vous ne le regardez pas dans les yeux, il se dit, bon, ben, il ne m'écoute pas, il s'en moque, et il se dit, cause toujours, tu m'intéresses, en fait. Et lui, effectivement, n'avait pas cet éclairage-là. Et il me dit, ah bon, ben maintenant, il faut que je le regarde dans les yeux, alors quand il me parle. Je dis, ben, c'est vrai qu'en France, c'est une chose qui se fait, qui en général est préférée au fait de ne pas regarder dans les yeux. En fait, ouvrir le champ des possibles, c'est faire entendre qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs explications, plusieurs compréhensions d'une situation. Et donc, il n'y a pas forcément une difficulté insurmontable à ce qui s'est passé. Il s'agit plus de travailler sur ce qu'on ressent que sur ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'avec un assistant social, il faut dire la vérité, alors qu'avec un psychologue, on peut dire au-delà de la vérité ce qu'on ressent. Psychologue interculturel, donc c'est des psychologues qui travaillent auprès de publics qui sont en difficulté au niveau de l'adaptation culturelle. Ces publics, ça peut être des migrants ou des expatriés de l'humanitaire. Des gens qui sont amenés à vivre ou à travailler dans un pays autre que celui de leur origine, en fait. Je vois en ce moment beaucoup d'expatriés de l'humanitaire, peut-être du fait des situations politiques actuelles dans les différents pays étrangers, et donc beaucoup reviennent en difficulté par rapport à ce qu'ils ont pu vivre sur place, et donc je les reçois ici pour essayer de faire le point un peu sur ce qu'ils ont vécu.
C'est en fait la relation à l'autre.
Voilà, tout à fait. La relation à l'autre qui peut être vécue ici aussi en France. Hein. L'autre n'est pas forcément étranger, mais il y a des concepts dans l'interculturel de décentration, de relativisme, enfin, c'est peut-être des grands mots que je donne, des concepts donc dans l'interculturel qui font que cette connaissance va permettre d'aider encore plus les personnes qui ont été amenées à vivre personnellement à l'étranger. Moi, j'ai toujours été fascinée par les autres cultures, les autres pays. Voilà, j'ai toujours voulu connaître, comprendre, découvrir. Et c'est vrai que cette attirance, depuis le début, elle a été en moi, de vouloir connaître ce qui était différent, de communiquer et de comprendre. Moi, je suis antillaise d'origine. Je suis née à Paris, mais c'est vrai que je n'ai pas vécu aux Antilles. Et en fait, le fait d'être physiquement donc reconnue comme antillaise, je vais pas dire m'a posé des problèmes, mais on me renvoyait souvent à cette couleur de peau qui n'était pas, entre guillemets, ma culture. C'est pas que je rejetais la culture antillaise, mais on me disait « Ah, mais tu parles pas créole ?» Voilà, des références qui faisaient que, en fait, je me disais « Mais pourquoi on s'arrête à un physique au niveau de, voilà, de la compréhension d'une personne qui va être en face de soi, au lieu d'essayer d'aller plus loin, au-delà de cette apparence, et d'essayer de comprendre et de savoir où cette personne a vécu ?» Donc c'est vrai que ça a été aussi un deuxième élément qui m'a amenée à l'interculturel, en fait. Ça fait 12 ans que j'exerce. Je travaillais principalement auprès de publics en difficulté. Au début, j'ai travaillé donc au Brésil, à Rio, au tribunal des enfants, donc tribunal pour mineurs délinquants. J'ai travaillé ensuite auprès de publics justice ici en France. J'ai travaillé auprès de mineurs jeunes adultes isolés, donc au sein d'une mission locale. Et puis également auprès d'une structure d'orientation sociale qui recevait des demandeurs d'asile et réfugiés politiques.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de monter votre entreprise ?
Alors dans le social, il y a énormément de travail. Il y a moins de travail auprès des publics migrants. Je travaillais auprès de publics migrants à la marge, mais pas spécifiquement. Et c'est vrai que par rapport à ce qui était proposé comme type d'approche dans le cadre social, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de possibilités d'orientation. Je suis très critique par rapport à l'accompagnement des publics migrants ou en difficulté en France, et puis par rapport aussi au soutien qui peut être fait aux équipes dans ces structures sociales. Donc j'ai décidé de monter mon activité pour pouvoir développer l'approche qui me paraissait la plus cohérente. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que je trouvais que c'était, le travail pour les professionnels était assez dur. Quelquefois, eux, on parle à la CAF, oui, j'ai été agressée, elle était vraiment agressive, la responsable ou la personne qui m'a reçue au guichet. Mais il faut se rendre compte qu'eux aussi se reçoivent beaucoup d'agressivité. Et ce qui est marrant, c'est que dans le cadre de mon activité, là, je fais de l'accompagnement de professionnels dans le cadre interculturel ou dans le cadre de la gestion du stress ou de la prévention des conflits, donc dans le contact avec ces publics qui peuvent rencontrer en difficulté, donc forcément un peu plus à vif dans le cadre de leurs demandes. Ou des publics migrants avec qui ils auront du mal à communiquer. Il n'y a pas de sens. Les gens vont faire parce qu'on va leur demander, mais ils ne vont pas comprendre pourquoi. Et ça, dans le social, dans les structures sociales, on ne le travaille pas. Ce n'est pas travaillé. C'est entendu, hein. Les professionnels le savent, mais bon, après, il y a une charge de travail qui est telle qu'effectivement, on va se limiter à cette partie sociale sans prendre en compte peut-être ces difficultés de communication et de compréhension qui vont faire que les gens vont faire, mais ils ne vont rien comprendre. Et donc, pour le coup, la démarche n'aura pas servi à grand-chose, même si elle est réalisée, parce que j'ai fait cette démarche, vous voyez, je suis allée voir telle structure, j'ai fait mon dossier, mais après, ils ne sauront pas quoi faire de ce dossier. Parce que ce qui compte, en fait, c'est vraiment de donner du sens entre ce qu'on connaît, donc ce que ces personnes connaissent de leur pays d'origine, et ce qu'ils comprennent de ce pays ici. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'adhésion de ces personnes à une démarche, à un parcours, et on veut que toutes ces personnes avancent. Ouvrir le champ des possibles par rapport à une situation qui s'est passée. Je pense à un adolescent que j'avais reçu. Donc ce garçon, à l'école, ça se passait très mal. Il avait des problèmes de comportement, il se faisait remarquer en cours, il n'écoutait pas, il avait des très mauvaises notes. Hein. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois, on discutait. J'avais des bandes dessinées, puis je lui dis « tu vas m'en lire une » parce que j'avais du mal à comprendre, il avait l'air, lui, de sa situation. Il est arrivé en France à l'âge de 13 ans, il n'avait pas été scolarisé dans son pays d'origine, il était camerounais. Il n'avait pas été scolarisé. Il vivait dans un village avec son grand-père. Et donc, il arrive à 13 ans en France. On le scolarise au collège. Alors, il y a quand même des classes spéciales d'adaptation pour essayer de d'abord apprendre le français avant d'intégrer la classe normale. Mais là, quand moi, je le rencontre, il est en quatrième. Et puis donc, lors de cette consultation, je lui demande de lire la BD et je vois qu'il n'arrive pas à lire. Enfin, il la lit, mais vraiment d'une façon... Voilà, il est analphabète de toute façon, il n'avait pas été scolarisé. Lors de la remise des bulletins, j'ai rencontré son professeur principal et je lui ai dit « Mais vous savez qu'il ne sait pas lire ? Quel sens on donne à un enfant qu'on met en classe de quatrième ?» Donc là, il n'était plus en classe d'insertion, en classe d'adaptation, mais dans une classe de quatrième classique, avec un petit peu d'adaptation parallèle pour le français. Donc cet enfant était là, Donc il ne pouvait pas suivre, forcément. Sa façon de s'exprimer, c'était de se faire remarquer. Quand on lui posait une question, un professeur lui posait une question, il rigolait, il interpellait ses camarades, etc. Mais il ne pouvait pas répondre à une question toute simple par rapport à un exercice de maths ou par rapport à, je ne sais pas, un texte de géographie ou d'histoire. Donc en fait, en discutant après avec le professeur principal, voilà quel sens, voilà, c'est vraiment ça, quel sens il y avait à ce que, en plus, il allait passer en troisième, donc encore mieux, quel sens il y avait à tout ça. Et donc on a travaillé avec lui et avec ses parents à ce qu'il puisse faire un stage auprès de la mairie, de la ville où il habitait, qu'il puisse faire un stage donc, dans les espaces verts, puisqu'il m'avait parlé de cette expérience qui lui avait plu de travail au jardin avec son grand-père. Il a pu faire ce stage avec la mairie. Et en parallèle, on a vu pour que l'année suivante, plutôt que de passer en troisième, il puisse aller dans un centre de formation spécialisé pour qu'il puisse faire formation en espaces verts et puis qu'il puisse avoir des cours d'alphabétisation. De français classique, voilà. Là, il y avait du sens. Ses parents ont adhéré, ses parents qui étaient mécontents de ses résultats, des réflexions qu'ils avaient, des punitions, de l'exclusion de classe. Tout le monde s'est ressoudé autour de ce projet de formation professionnelle. Bon, il allait avoir 16 ans, donc effectivement, ça n'avait pas de sens. En étant analphabète, d'arriver en troisième, il serait sorti et puis après, il n'aurait eu aucune piste. Donc là, vraiment, il y a eu vraiment un travail. Donc la plus large qui a permis d'essayer de l'inscrire dans un parcours qui ait du sens pour lui, pour sa famille et puis aussi pour l'école. Après, il y a effectivement la charge de travail, j'en parlais pour le social, la charge de travail à l'éducation nationale qui fait qu'il y a des élèves qui ont des situations particulières, mais vu le nombre d'élèves à gérer, on n'a pas le temps de s'occuper de chacun d'eux. Donc effectivement, c'est bien quand il peut y avoir un réseau autour ou d'autres prises en charge pour permettre d'éclaircir un petit peu les situations et d'essayer de trouver des solutions qui existent en fait.
Et de l'autre côté, par exemple, vous pouvez aider des personnels de la CAF, par exemple, à savoir mieux accueillir les publics pour pas qu'il y ait de malentendus.
Travailler sur qu'est-ce que c'est que l'interculturel, qu'est-ce qu'on porte chacun, quelle est notre identité déjà et qu'est-ce qu'on porte en tant que Français, quelles sont nos valeurs qui ne sont peut-être pas portées par d'autres personnes et qui, quand on va les transmettre à ces personnes, quand on va les dire à ces personnes, on va se trouver dans des situations d'incompréhension, voire de conflit, qui font que les situations vont rester enquistées et ne vont pas se débloquer. Donc voilà, c'est vraiment que chacun puisse prendre conscience qu'elle porte des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que celles des personnes qui sont en face d'elle et que le fait que ces valeurs soient différentes, ça peut créer des incompréhensions.
Vous avez été lauréate des talents des cités. Comment ça se passe, ça ?
Ben en fait, dans le cadre de l'ouverture de la création de mon activité, je suis suivie par la boutique de gestion à Paris. Et en fait, la personne qui s'occupait du concours, donc qui est organisée par la boutique de gestion notamment, m'a contactée. M'a envoyé un mail pour me dire que par rapport à mon parcours, je pense qu'elle envoyait aussi à différents créateurs d'entreprises, il serait intéressant que je puisse postuler. Donc c'est vrai que moi, le concours, je ne le connaissais pas en fait à la base. J'ai appris comme ça et donc je me suis renseignée, j'ai regardé un peu quel était le dossier de candidature et puis je me suis lancée. Et c'est vrai que ça a été vraiment un bon travail pour moi et je pense que c'est un bon travail de toute façon de tenter des concours. Parce que ça m'a permis de prendre du recul un petit peu sur ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment je m'organisais, où j'en étais de ma création d'entreprise, du développement de mon activité, les partenaires que j'avais contactés, voilà, pour essayer de me développer. Donc c'est vrai que ça a été un très très bon exercice. Encore mieux, j'ai été reconnue lauréate pour la région Île-de-France. Donc ça m'a permis de prendre conscience encore plus que mon action et mon projet avaient du sens et qu'il était reconnu.
Et ça change quoi ?
Ça change quoi ? Alors on est très médiatisé, donc ça permet de communiquer, de faire connaître un plus large nombre notre activité. Ensuite, c'est vrai que ça donne un label, hein, Talent des Cités, donc c'est un concours national. Ça m'a permis de rencontrer déjà d'autres créateurs d'entreprises, lauréats également, de partager avec eux un petit peu les bonnes pratiques lors de la création, de parler aussi de la difficulté de monter une entreprise et donc d'être soutenu aussi dans ces difficultés. trouver un cabinet, de voir que la prospection commerciale, c'est un travail vraiment très très long et ardu, qu'on n'a pas de retour tout de suite. Donc il faut effectivement garder le moral. Et moi, mon activité, je l'ai développée seule. Donc je ne bénéficie pas d'une aide ou d'un soutien qui peut être là quand on monte un projet à plusieurs. Ça a été ces difficultés principalement, oui, de prospection, de savoir à qui m'adresser, puis de continuer à m'organiser, à organiser mon temps de travail, à organiser mes démarches, en fait. Voilà, j'ai créé mon activité sur un quartier politique de la ville. J'habite donc dans le 18e arrondissement. Alors, bien sûr, on peut se dire, bon, elle a un bac plus 5. Moi, ma famille, n'est pas spécialement aisée. Mes parents étaient ouvriers. Les études que j'ai faites, je les ai faites grâce à une bourse. Donc voilà, c'est aussi ce soutien de la collectivité qui m'a permis d'avoir ce bac plus 5. Bien sûr, j'ai travaillé hein, aussi pour l'obtenir, mais c'est sûr que si j'avais pas eu de bourse, j'aurais pas fait d'études. La cité, c'est un lieu, hein, c'est un lieu comme un autre en même temps. C'est un lieu, dans cette cité, le mot cité, c'est qu'à l'intérieur, il y a des citoyens, on essaye tous d'avancer, d'être acteurs, et des fois, on a besoin d'un peu plus de soutien pour pouvoir mener les choses à bien. Donc moi, dans mon cas, ça a été une bourse d'études. Voilà, pour certaines personnes, ça va être d'autres choses qui vont permettre d'avancer, de pouvoir développer un projet ou de mener une vie équilibrée et sereine.